un autre regard. L'épopée de la verrerie ouvrière d'Albi. Carmaux a longtemps été une ville symbole du socialisme, en raison des grèves des mineurs, des verriers et de la présence de Jean Jaurès. Dès 1892, y est élu maire un mineur, dirigeant syndical, militant socialiste. Il est immédiatement licencié. Les mineurs refusent cette remise en cause du droit de la classe ouvrière à s'exprimer en politique et se mettent en grève. La grève, soutenue par Jean Jaurès, devient vite un enjeu national. Elle permet d'obtenir un congé illimité au maire pour l'exercice de cette fonction. Dans la foulée, Jean Jaurès est élu sous l'étiquette « socialiste indépendant ». Il le restera presque sans interruption jusqu'à son assassinat. Il représente à la Chambre des députés les mineurs de Carmaux. Milite avec ardeur contre les lois scélérates adoptées à cette époque d'attentats anarchistes et se lance dans une défense inconditionnelle des ouvriers en lutte, qui va prendre une ampleur particulière en 1895 avec la grève des verriers de Carmaux. Cette année-là, le 30 juillet, la direction de la verrerie licencie le secrétaire du syndicat et un autre dirigeant qui avait assisté au congrès syndical des verriers pour absence prolongée de l'usine sans autorisation. Les ouvriers votent la grève. Une semaine après, la direction ferme l'usine et met les 1200 ouvriers ouvrières au chômage. La police effectue des perquisitions pour atteinte à la liberté du travail. Un escadron de gendarmerie interdit tout rassemblement. Les arrestations se multiplient. Des centaines de jaunes sont amenés d'autres régions. La grève va durer plus de 2 mois. Lors de la réouverture, le patron exclut 300 verriers, les syndicalistes les plus combatifs. L'affaire est un enjeu national, débattu au Parlement. Faut-il exproprier ou pas, nationaliser ? Jaurès propose alors la création d'une verrerie appartenant à la collectivité ouvrière, où tous les licenciés pourraient travailler dans le respect des libertés syndicales et politiques. L'idée soulève l'enthousiasme de tous les verriers de France, des organisations syndicales et des coopératives. Elle est audacieuse. Sa réalisation demande un effort considérable. Une souscription nationale est lancée dans les presses socialistes et républicaines, dans une alliance inédite de toutes les tendances. Les dons affluent. Il finance la construction qui va finalement se faire à une trentaine de kilomètres, à Albi. Les ouvriers montent eux-mêmes les murs et un an après, le 25 octobre 1896, la verrerie ouvrière d'Albi est inaugurée. Après une kermesse et un meeting dans l'enceinte de l'usine, un bal populaire clôt la journée. 2 mois plus tard, les premières bouteilles sortent, gravées avec les lettres VO. Le capital est divisé en 5000 actions. Une donatrice offre 100 000 francs pour l'achat du terrain. Seuls les syndicats et les coopératives peuvent être actionnaires. Les coopératives sont très nombreuses à l'époque, hein, 2500 en France, dont 1684 de consommation, certaines avec des milliers de membres. Et elles jouent un rôle financier décisif. Le syndicat des verriers est l'actionnaire principal, mais minoritaire à l'Assemblée générale. Et la verrerie verse 60% des bénéfices aux organisations ouvrières et 40% aux verriers de l'entreprise, somme qui alimente la caisse de secours, la caisse de retraite. Si les verriers ne sont pas directement propriétaires de l'entreprise, ils la dirigent. La compagnie de Carmaux fait tout pour la ruiner. En 1897, 2 ans après, une période critique est passée grâce à de nouveaux apports financiers des syndicats et des coopératives. Elle finit par réaliser des bénéfices à partir de 1898. Les commandes de bouteilles proviennent essentiellement des coopératives qui vendent du vin. Après ces débuts difficiles, la verrerie ouvrière connaît de nombreuses années de prospérité qui permettent son continuel développement. Elle atteint 750 salariés en 1913. Divers affrontements vont avoir lieu entre les ouvriers et les possesseurs de la verrerie, jusqu'à ce qu'en 1930, elle devienne une coopérative ouvrière de production dans laquelle le personnel peut être propriétaire de parts. Elle va vivre ainsi jusqu'en 1985, où elle est transformée en société anonyme, rachetée par Saint-Gobain. Si le lyrisme de Jaurès lors de l'inauguration « Vous avez élevé, citoyens, un temple que l'humanité considérera toujours comme le berceau de la liberté » mérite une certaine pondération, cet exemple d'entreprise autogérée, œuvre de la classe ouvrière, reste quand même une superbe leçon de solidarité.